Un adolescent, livre 1, chapitre 7. 1. J'essayais de faire le bilan de la situation quand j'entendis les pas de Versilov trébucher dans l'escalier presque impraticable. Il m'appela pour avoir de la lumière. Muni d'une bougie, je me posai sur les marches et lui tendis la main pour faciliter son ascension. « Merci, ami. Je n'ai jamais grimpé ici, même quand je louais l'appartement. Je pressentais ce que cela devait être, mais j'étais encore loin de supposer pareille niche. » Il se campa au milieu de la chambrette, qu'il inspecta circulairement. « Mais c'est un cercueil, un vrai cercueil !» La chambrette était, en effet, étroite, longue et basse. À hauteur d'épaule, elle se mansardait selon la déclivité du toit. Instinctivement, Versilov se tint d'abord courbé, craignant de heurter sa tête au plafond. Il finit par s'asseoir sur le divan, où mon lit était déjà préparé. Je restai debout et le regardais curieusement. « Ta mère ne sait pas, à ce qu'elle m'a dit, si elle doit prendre l'argent que tu lui as offert pour ta pension. » Maintenant que j'ai vu ce cercueil, la chose est simple. Non seulement elle ne peut accepter ta générosité, mais il sied que tu acceptes de nous un subside. Je n'étais jamais venu ici, et je ne peux m'imaginer que l'on y puisse vivre. Je me suis habitué au logis, mais vous y voir, après ce qui s'est passé en bas, voilà à quoi je ne m'accoutume guère. Oui. Tu fus bien grossier en bas. Mais j'ai aussi mes idées, que je t'expliquerai. Du reste, il n'y a rien de particulier dans ma visite, et tout ce qui s'est passé en bas est complètement dans l'ordre normal. Mais dis-moi, au nom du Christ, ce que tu nous as notifié tout à l'heure, est-ce bien tout ce que tu voulais nous faire savoir ?
Tout. Supposons que ce soit tout.
C'est peu, mon ami. J'avoue que, d'après ton entrée en matière, je m'attendais à plus.
Mais d'abord, qu'est-ce que cela peut vous faire?
Tu as blessé en moi le sentiment de la mesure. La mesure n'était pas observée. Il y avait trop de fracas. Tout un mois, tu prépares ton monde à une solennité, et subitement, rien.
Je voulais en dire long. Maintenant, je suis honteux d'avoir dit même cela. Il y a des choses qu'il serait mieux de taire. Pourtant, je n'ai pas raconté que des sornettes.
Mais vous n'avez rien compris.
Tu souffres aussi quelquefois du discord des idées et des paroles. C'est une noble souffrance, mon ami, et que l'élite seule éprouve. Un sot est toujours satisfait de ce qu'il a dit, et les mots ne feront jamais défaut au peu qu'il a à dire. Même il exprimera toujours plus qu'il n'y a en lui. Travers où j'ai donné tout à l'heure, quand j'ai réclamé Versilov tout entier. Il ne m'en faut pas tant. Je n'ai pas besoin de Versilov du tout.
Mon ami, je suis venu un peu trop tôt. Tu n'es pas encore calmé. Et d'une façon générale, tu supportes mal la critique. Mais assieds-toi de grâce. De ce que tu as dit à ta mère résulte clairement que le plus pratique est que l'on se sépare. Je suis venu t'exhorter à opérer en la circonstance le plus doucement que tu pourras. Le moindre scandale serait douloureux à ta mère, déjà si effarée. Le seul fait que je sois montée chez toi lui est un réconfort. Elle espère qu'une réconciliation n'est pas impossible. Ce sont des cœurs simples, mais qui aiment sincèrement. Pourquoi donc ne pas les cajoler à l'occasion ? Et d'une. Deuxièmement, pourquoi se quitter avec des désirs de vengeance et un masque grimaçant? Sans doute, il n'est pas besoin de se jeter dans les bras l'un de l'autre, mais on peut, sinon exprimer, du moins sous-entendre une estime réciproque, au départ. Ne le penses-tu pas? Et tout cela n'est que balivernes. Je m'engage à déménager sans scandale, ce sera suffisant. Mais c'est pour ma mère que vous vous dérangez ainsi. J'inclinerais à croire que le souci de sa tranquillité n'y est pour rien. Vous la léguez seulement pour dire quelque chose.
Tu ne me crois pas? Vous me traitez en enfant. Mon ami, je suis mille fois prêt à te demander pardon pour tout ce que tu m'attribues, pour toutes ces années de ton enfance et pour tout ce que tu voudras. Mais, cher enfant, qu'en résultera-t-il? Tu es trop intelligent pour te mettre de propos délibérés dans une situation aussi fausse. Me permettras-tu de te dire que je ne comprends pas tout à fait le sens de tes griefs? En effet, quels sont-ils, au juste? De n'être pas né vers Silov? Non? Bah, tu ris avec mépris et tu agites les mains. Cela veut dire non? Cela veut dire non. Croyez bien que je ne fais pas consister l'honneur à s'appeler Versilov. Laissons l'honneur, et d'ailleurs tu te devais de faire une réponse démocratique. Mais alors, de quoi m'inculpes-tu? Tatiana Pavlovna a dit, il y a une heure, tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle a formulé l'argument décisif et à quoi je n'avais pas songé. Vous ne m'avez pas mis en apprentissage chez un cordonnier, et il sied que je vous en sois reconnaissant. Comment mon ingratitude peut-elle résister à cette révélation? C'est peut-être votre sang orgueilleux qui crie en moi, André Petrovitch. Oh, j'en doute, mais passons. Et veuille convenir que ton humeur agressive, à quoi malheureusement j'étais peu sensible, ne martyrisait que ta mère. Or, il ne t'appartient pas de la juger. En quoi sa faute envers toi consiste-t-elle? Et à ce propos, mon ami, explique-moi dans quel but, dès ton enfance, tu déclarais à tout venant que tu étais un enfant naturel. Une calomnie, mon cher. Tu es bel et bien un enfant légitime, le fils de Makar Ivanovitch Dolgorouki, homme remarquable pour son esprit et son caractère. À la vérité, si tu as reçu une instruction supérieure, c'est grâce à l'intervention de ton ancien maître, Versilov. Mais qu'est-ce que cela prouve? Quoi qu'il en soit, les racontars que te dictait un orgueil mal placé livraient ta mère au jugement du premier lourdeau venu. Mon ami, cela est ignoble, d'autant plus ignoble que ta mère n'a en tout cela aucune part de responsabilité. C'est la nature la plus délicate. Et si elle n'est pas Madame Versilov, c'est uniquement parce qu'elle est déjà mariée. Finissons, je suis de votre avis. D'autre part, à la faveur de ce sentiment de la mesure dont vous vous targuez, j'ose croire que vous interromprez votre semence. Il y a mesure à tout, même à votre amour subit pour ma mère. Mais vous êtes en veine de parole. Ne me direz-vous rien de mon père, ce Makar Ivanovitch, le nomade? Depuis longtemps je voulais vous demander des renseignements sur son compte, et peut-être aussi, puisque l'heure est propice aux confidences, consentirez-vous à répondre à cette question. Comment, au cours de ces 20 ans, avez-vous pu ne pas user de votre influence sur ma mère pour dissiper ses ténèbres natives, pour la libérer intellectuellement? Oh, la qualité même de son âme n'est pas en cause. Moralement, ma mère fut toujours, pardonnez-moi, bien supérieure. Mais elle n'est qu'un cadavre supérieur. Seul, Versilov existe, et tout ce qui l'entoure végète, avec tâche de le nourrir de ses sucs essentiels. Pourtant, elle était vivante, elle aussi. Vous avez donc aimé quelque chose en elle. Elle était donc une femme aussi dans le temps. Mon ami, si tu le veux savoir, sache qu'elle n'a jamais été ce que tu dis, me répondit-il en reprenant ses insupportables manières de sincérité évasive et de railleuse désinvolture. Elle ne l'a jamais été. La femme russe n'est jamais femme. Une polonaise, une française l'est, ou une italienne? C'est cela, la passionnée italienne. Voilà qui est pour charmer un civilisé russe de la haute société, un seigneur à la Versilov. Il éclata de rire. Du diable, si je m'attendais à rencontrer ici un slavophile! Et il se mit à parler avec complaisance. Je me rappelle son récit mot pour mot. Il devenait clair pour moi que cet homme n'était pas venu dans ma chambre seulement pour bavarder et pour tranquilliser ma mère.
2. Ces 20 années, nous avons vécu, ta mère et moi, dans le silence. Commença-t-il sur un ton artificiel. Et tout, entre nous, se passa sans parole. La caractéristique de notre liaison de 20 ans fut le silence. Nous ne nous sommes pas brouillés une seule fois, je crois bien. Il est vrai que je m'absentais souvent et la laissais seule, mais je finissais par revenir. Nous revenons toujours. Manière de faire qui est propre aux hommes et qui dérive d'un sentiment de générosité. Si la solidité du mariage ne dépendait que des femmes, nulle union ne serait durable. L'humilité, la docilité, la timidité et, en même temps, la fermeté, la force, l'authentique force, voilà ta mère. Remarque que c'est la femme la meilleure que j'ai rencontrée. Mais qu'elle soit forte, j'en puis témoigner. J'ai vu cette force la soutenir. Je ne dirais pas ses convictions. Elle n'a que faire de convictions. Ses croyances lui sont sacrées, lui tiennent au cœur comme la foi au cœur d'un martyr. Et tu peux voir, est-ce que j'ai l'air d'un bourreau? Voilà pourquoi j'ai préféré me taire presque en toute chose, et non parce que le silence est facile. De la sorte, tout se passa entre nous largement et humainement. Entre parenthèses, je noterai ceci. Je la soupçonne de n'avoir jamais cru en mes sentiments d'humanité. Aussi trembla-t-elle toujours. Mais tout en tremblant, elle ne s'assujettit à aucune culture. Ils s'y entendent, eux, et mieux que nous. Oui, ils excellent à vivre suivant leurs normes dans les conditions les moins normales. Qui ? Ils ? Je ne vous comprends pas bien. Le peuple, mon ami, je parle du peuple. Il a prouvé sa puissance vitale à travers l'histoire, non seulement physiquement, mais politiquement. Mais je reviens à notre débat. Ah ! Correction au portrait de ta mère. Elle n'est pas toujours silencieuse. Elle parle quelquefois, mais de telle sorte que tu te rendrais compte toi-même de l'inutilité de lui donner la réplique. Mieux, tu verrais nettement que nulle initiation, pour longue, laborieuse et adroite qu'elle puisse être, ne la rendra apte à écouter utilement ce que tu pourrais avoir à lui dire. Je me garde, note-le, de prétendre qu'elle soit sotte. Elle a de l'esprit, et même un esprit remarquable. Au surplus, tu ne croiras peut-être pas à son esprit. Et pourquoi non? Mais j'avoue qu'il m'est difficile de croire que vous ne jouez pas la comédie quand vous lui reconnaissez de l'esprit. Tu vois, tu deviens tout de suite impertinent. Tu me prends pour un caméléon. Mais je veux te traiter en enfant gâté. Parlez-moi de mon père, voulez-vous? De Makar Ivanovitch? Makar Ivanovitch, c'est, comme tu le sais déjà, un cerf qui, pour ainsi dire, aspira à la gloire. Je suis prêt à parier qu'en ce moment vous en êtes jaloux. Au contraire, mon ami, au contraire. Mais, au fait, il me plaît que tu sois d'humeur admonitoire. Justement, je suis en disposition de me repentir, et, ma foi, en ce moment même, pour la 1000e fois peut-être, je regrette ces choses d'il y a 20 ans. Dieu m'est témoin que tout se passa par hasard, et humainement, étant donné mes forces et l'idée que je me faisais alors d'une action humaine. Oh, nous brûlions tous alors du désir de faire le bien, de servir les causes civiques, l'idée supérieure. Nous condamnions les grades, nos prérogatives héréditaires, la propriété et même les Lombards, du moins quelques-uns d'entre nous. Je te le jure, nous n'étions pas nombreux, mais nous parlions bien, et même à l'occasion, il nous arrivait de bien agir. C'était le temps où vous lui sanglotiez sur l'épaule? Mon ami, je suis d'avance et en tout de ton avis. Mais j'y pense, n'est-ce pas moi qui t'ai parlé de cet épisode de l'épaule? Oui, ma foi, et par conséquent tu es en train d'abuser de ma confiance et de ma bonhomie. Mais concède que le dit épisode ne me met pas déjà en si mauvaise posture, surtout si on le replace à sa date.
Nous faisions nos débuts dans l'humanitarisme. Il y avait de l'affectation dans mon cas. Mais, je dois le dire à ma décharge, j'ignorais alors que je n'étais pas sincère. Toi, par exemple, est-ce que tu es toujours naturel dans la pratique ?
J'ai montré une sensiblerie peut-être excessive, et en entrant dans cette chambre, j'éprouvais quelque honte.
Vous pouviez croire que j'avais posé. Il est bien vrai que le sentiment le plus sincère peut mettre un masque, mais tout à l'heure, en bas, je vous jure que tout en moi était naturel.
Comme tu as bien dit cela.
Oui, on sent sincèrement. Et néanmoins, on pose.
Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé.
Tout en posant, je sanglotais pour tout de bon sur l'épaule de Makar Ivanovitch. Dans cette pathétique minute, me plaignait-il ? Question. Mais je me rappelle que cela m'eût fait bien plaisir.
Savez-vous, interrompis-je, que même maintenant, vous raillez ?
Toutes les fois que vous m'avez parlé durant ce mois, ça a été sur ce ton goguenard. Pourquoi me parliez-vous ainsi, obstinément ?
Tu crois, répondit-il avec douceur, tu es trop soupçonneux, et si je me moque, ce n'est pas de toi, du moins pas de toi seul, sois tranquille. Mais maintenant je ne plaisante pas. Reprenons. J'ai fait de mon mieux en ce temps-là, et crois-le bien, sans souci de mes intérêts. Nous, les hommes excellents d'alors, ignorions l'art à quoi le peuple excelle. D'agir utilement. On se faisait le plus de tort possible, et je pense que c'était cela que nous considérions comme notre profit le plus grand. La génération actuelle des gens cultivés est beaucoup plus avide. Avec une sincérité entière, j'ai expliqué les choses à Makar Ivanovitch avant le péché. Être expansif, c'est parfois être cruel. J'aurais dû mettre une sourdine à ma franchise. D'abord, c'eût été plus poli. Mais est-ce que dans la griserie de la danse, on résiste au plaisir de faire un joli pas un peu aventureux ? Je lui ai offert alors 3 000 roubles, et je me rappelle qu'il laissa tomber ma proposition dans le silence. Je n'étais pas fière. Je parlais. 3 000 roubles, la libération pour lui et pour sa femme. Que sais-je encore ? Tout cela s'il renonçait à sa femme, et même s'il n'y renonçait pas. Bref, je le laissais maître de la situation. Et il continuait à se taire. Mais, comme je voulais pour la 3e fois m'appuyer sur son épaule, il la secoua, et sortit avec un sans-façon qui ne laissa pas de m'étonner. J'ai vu ma mine dans une glace, une mine, dirais-je, déconfite, en général. Lorsque ces gens se taisent, c'est de mauvais augure. J'avoue que je n'étais pas sans crainte quand je l'avais convoqué. Il y a des caractères outranciers dans ces milieux-là. Qu'il eût poussé les hauts cris, qu'il eût mugi, cette tuerie provinciale, qu'aurais-je bien pu faire, moi, David exigu ? Voilà pourquoi, d'instinct, j'avais proposé les 3 000 roubles. Mais je m'étais trompée. Il y avait en ce Makar Ivanovitch bien autre chose.
Dites, le péché était déjà commis ? Vous sembliez dire tout à l'heure que vous aviez convoqué le mari avant le péché.
Vois-tu, mon cher, pour ainsi dire,
ce qui signifie que le péché avait été commis. Mais ne disiez-vous pas, il n'y a qu'un instant, que vous vous étiez mépris sur son compte, qu'il y avait tout autre chose en ce Makar Ivanovitch.
Ce que c'était, je ne le sais pas encore avec précision, mais quelque chose de spécial, et tu sais, quelque chose de très concruant. J'en eus la notion au sentiment de malaise un peu penaud que j'éprouvais ensuite en sa présence. Le lendemain, il se prépara au départ, et sans perdre de vue nulle des conditions que j'avais fixées.
Il a pris l'argent ?
S'il l'a pris ! Et sais-tu, mon ami, qu'à ce point de vue, il m'a étonné. Je n'avais pas en poche les 3 000 roubles. J'en réunis 700 que je lui donnais. Eh bien, il exigea les 2 300 autres en billets à ordre, dûment endossés.
Dans la suite, il poursuivit judiciairement le recouvrement de ces sommes, intérêts compris. Pourquoi cette cupidité chez un pèlerin que les communautés hébergent? Je lui avais offert de l'argent sans arrière-pensée, certes, et pour ainsi dire avec feu. Mais les minutes s'accumulant, je m'étais bien entendu ressaisi, et je comptais qu'il m'épargnerait, ou du moins qu'il nous épargnerait, elle et moi, qu'il attendrait. Mais non, ah, c'est un créancier tenace. Il est indispensable que j'intercale ici un nota bene. Que M. Versilov fût mort, ma mère serait restée littéralement sans un copec pour ses vieux jours. Mais les 3 000 roubles en question, intacts et dès longtemps doublés par les intérêts, Makar Ivanovitch les a, l'année dernière, légués à ma mère par testament. Dès ces temps lointains, il avait deviné mon Versilov. Vous avez dit un jour que Makar Ivanovitch était venu plusieurs fois et que toujours il descendait chez ma mère. Oui, mon ami, et j'avoue qu'au début j'avais terriblement peur de ses visites. Au cours de ses 20 ans, il est venu 6 ou 7 fois. Et les premières fois, quand j'étais à la maison, je me cachais. Je cherchais à comprendre l'opportunité de ses démarches. La réflexion aidant, j'ai estimé qu'elles avaient leur raison d'être. Un jour, j'ai eu la curiosité de voir le bonhomme. Je t'assure qu'il me fit de l'impression. Il en était alors à sa 3e ou 4e visite, et c'était vers le temps où j'acceptais les fonctions d'arbitre territorial et m'appliquais si passionnément à l'étude de la Russie. Il m'a appris bien des choses. En outre, j'ai constaté chez lui, et non sans étonnement, un caractère toujours égal et presque de la gaieté. Il se gardait de la moindre allusion à cela, tu comprends. Bref, un homme de tact. Rien dans ses discours de cette phraséologie incohérente familière aux moujiks, et que, malgré mon démocratisme, je ne peux supporter. Aucun de ces mots exagérément russes dont se servent nos « vrais hommes de terroir » sur la scène et dans les romans. Il parlait très peu de la religion, et seulement lorsque je l'interrogeais. Il faisait de très jolis récits de la vie monastique, mais surtout ce respect de soi, ce respect modeste de soi, qui est indispensable pour l'égalité supérieure, je dirais plus, sans lequel ne peut exister l'égalité. Cette capacité de se respecter dans n'importe quelle situation, tu le constateras si tu vis, est fort rare. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est que Makar Ivanovitch a de la prestance, et je t'assure qu'il est très beau. Il est vieux, d'accord, mais... Il a le cuir hâlé, la taille haute et droite. Il est simple et grave. Ce m'avait étonné que ma pauvre Sophie pût me préférer, alors. Il était alors quinquagénaire, mais avait de l'allure. Et moi, à côté de lui, je n'étais qu'un godelureau. Du reste, je me souviens que déjà il avait les cheveux inexorablement blancs. Il était donc blanc lorsqu'il l'avait conduite à l'hôtel. C'est peut-être cela qui l'a influencé. Ce Versilov avait cette basse manie des gens huppés, après avoir dit des choses nobles et judicieuses, quand il ne pouvait faire autrement, de conclure par quelques pantalonnades. En l'espèce, attribuer aux cheveux blancs de Makar Ivanovitch une influence sur la psychologie de ma mère. 3. Stupidement, une bouffée de colère me bouleversa. Je me dressai. « Voyons, vous êtes venu ici pour que ma mère pût croire à une réconciliation. Du temps a passé. Le but doit être atteint. Voulez-vous bien me laisser seule ?» Il rougit légèrement et se leva. « Mon cher, tu as trop de sans-gêne avec moi. Du reste, au revoir, on ne peut pas plaire de force. Je me permettrai une seule question. Tu veux vraiment abandonner le prince ?»« Ah, je savais bien que vous aviez d'autres buts. Précisons, tu me soupçonnes d'être venu ici pour te déterminer, dans mon propre intérêt, à rester chez le prince. Et dis-moi, mon ami, estimes-tu aussi que ce soit dans un but intéressé que je t'ai appelé à Pétersbourg? Que tu es donc un garçon ombrageux. Je ne te veux que du bien. Et maintenant que mes finances s'améliorent, il me plairait que tu nous permisses, à ta mère et à moi, de te venir en aide de temps en temps. « Je ne vous aime pas, Versilov. »« Versilov, à présent. À propos, sache que je regrette bien de n'avoir pu te transmettre ce nom. C'est mon seul remords, si faute il y a. Mais songe-y, je ne pouvais épouser une femme mariée. » Voilà probablement pourquoi vous avez voulu épouser une femme qui ne le fut pas. Son visage eut une contraction brève. « Tu veux parler d'Ems ? Écoute, Arcade, tu t'es permis la même sortie en bas, devant ta mère, en me désignant du doigt. Sache donc que c'est sur ce point que tu te trompes le plus. De cette histoire avec feu Lydie Akhmakov, tu ne sais rien. Tu ignores notamment quel rôle y eut ta mère. Tu répètes des ragots. Aujourd'hui même, le prince disait que vous êtes un amateur de filles mineures.
Le prince disait cela?
Oui. Écoutez, voulez-vous que je vous dise avec précision pourquoi vous êtes monté chez moi? Je crois enfin l'avoir deviné.
Il était déjà sur le seuil. Il s'arrêta, tourna vers moi la tête, attentif.
Tantôt, lui dis-je. J'ai laissé échapper que la lettre de Touchard à Tatiana Pavlovna, trouvée dans les papiers d'Andronikov après la mort dudit Andronikov à Moscou, tomba dans les mains de Maria Ivanovna. Votre visage s'est légèrement contracté. C'est en remarquant, il n'y a qu'un instant, ce même jeu de physionomie que j'ai deviné. Il vous est venu à l'idée, n'est-ce pas ? Que si certaines lettres se trouvaient déjà chez Maria Ivanovna, telle autre lettre pouvait fort bien avoir changé de détenteur. Des lettres d'importance ont pu se trouver disponibles à la mort d'Andronikov, n'est-ce pas?
De sorte qu'en venant chez toi, je voulais te faire jaser?
Vous le savez bien. Il pâlit.
« Ce n'est pas toi-même qui as deviné cela. On sent la femme dans tes paroles haineuses et ta conjecture brutale. »«
La femme ? » ?»« Justement, j'ai vu aujourd'hui cette femme. C'est peut-être pour que je l'espionne que vous voulez me maintenir chez le prince. »«
Je vois que tu iras loin dans ta nouvelle voie. Ton idée a de l'étoffe. Continue, mon ami. Tu as des capacités indéniables pour l'espionnage. » Lorsqu'on a un talent, il le faut perfectionner.
Prenez garde, Versilov, ne me faites pas votre ennemi.
Mon ami, dans de pareils cas, on ne dit pas toute sa pensée, on la garde pour soi. Et maintenant, éclaire-moi, je t'en prie. Si fort mon ennemi que tu sois, tu ne souhaites point, je veux croire, que je me rompe le cou dans ton escalier. Tiens, mon ami, imagine-toi, tout ce mois, je te crus bon. Tu as un tel désir de vivre que si l'on te donnait trois existences, elles ne te suffiraient pas. Cela est écrit sur ton visage. Tes pareils sont bons pour la plupart. Je me suis bien trompé. Chapitre 8 1 À 8 heures, et sans attendre le café, que ma mère m'apportait à 8h30 précises, je m'esquivais. La matinée était toute gonflée d'un glacial brouillard laiteux. Je ne sais pas pourquoi, mais le grand matin pétersbourgeois, malgré son apparence revêche, m'est un délice. Je goûte particulièrement le jeu des questions et des réponses dans la foule hâtive. Elles sont toujours brèves, nettes, raisonnables, presque toujours amicales. Au fur de la journée, le pétersbourgeois devient plus rogue. Vers le soir, il est hargneux. Pour une vétille, il vous injurie ou se moque. Je me dirigeais vers l'autre côté du fleuve. Comme il fallait que je fusse à midi sur la Fontanka, chez Vassine, c'est à cette heure-là qu'on avait le plus de chances de le trouver chez lui, et qu'auparavant je devais passer chez Efim Zveriev, je me hâtais. Peu s'en fallut pourtant que j'arrivasse chez Zveriev trop tard.
Il finissait de prendre son café et était sur le point de partir. « Qu'as-tu à venir si souvent ? » grogna-t-il sans prendre la peine de bouger. « Je vais te l'expliquer. » Le matin pétersbourgeois est prosaïque entre tous les matins qui blêmissent sur les villes. Il est pour moi plein de fantasmagories où je m'hallucine. Quand cette brume dense va se dissiper, la putrescente cité de Pétersbourg ne s'évanouira-t-elle pas avec elle? Et il ne restera, sous le ciel reparu, qu'une visqueuse mare finlandaise, et au milieu des boues, pour la beauté, un cavalier de bronze sur un cheval anélant et recru. Cette cohue, cette ville, tout n'est peut-être que le rêve de quelqu'un, et le réveil du rêveur abolira les apparences. C'est dans cet état d'esprit que j'arrivais chez Zveriev, qui était bien la dernière personne à qui je me fusse adressé en la circonstance, si j'avais eu le choix. Je lui exposai qu'étant de longue date mon camarade, il ne pouvait me refuser son concours dans une affaire d'honneur, et qu'en effet, je voulais provoquer le lieutenant de la garde, prince Sokolski, pour insouffler par lui décerné à mon père, Versilov, un an auparavant, à Ems. Par des confidences que je lui avais faites antérieurement, Efim Zveriev connaissait ma situation familiale. Il écoutait, se rengorgeant comme un moineau en cage. L'habituel sourire où se reflétait son infatuation saugrenue s'étalait plus large, et tout en lui témoignait qu'il se considérait comme fort au-dessus de moi par le caractère et l'intelligence. Je le soupçonnais d'ailleurs de me mépriser pour la scène de la veille chez Diergatchov, et cela devait être. Efim, c'est la foule, et la foule s'incline toujours devant le succès. « Et Versilov n'en sait rien ? » demanda-t-il. « Évidemment non. Alors de quel droit t'ingères-tu dans ces affaires ? Primo, et secondo, que prétends-tu prouver ?» Je connaissais toutes les objections. Je lui représentais que mon projet offrait maints avantages. En premier lieu, l'impertinent Sokolski pourrait constater que même dans notre catégorie sociale, il est encore des personnes ayant le sens de l'honneur. En deuxième lieu, le trop longanime Versilov tirerait peut-être de mon acte une leçon utile. En troisième lieu, si c'était pour des raisons de principe, peut-être fort péremptoire à ses yeux, que Versilov n'avait pas demandé réparation au prince et s'était résigné à supporter l'injure, du moins saurait-il qu'il existe un être capable de ressentir son offense à l'égal d'une offense personnelle et de s'exposer pour lui tout en le quittant à jamais. « Attends, ne crie pas, ma tante n'aime pas cela. Dis-moi, c'est avec ce même prince Sokolski que Versilov a un procès d'héritage ? Oui ? Excellent moyen de gagner les causes, tuer son adversaire en duel. » Je lui déclarai tout net qu'il était un imbécile, et le seul être assez stupide pour établir une relation entre le duel et le procès. D'ailleurs, le jugement avait donné gain de cause à Versilov, et au surplus, celui-ci avait plaidé non pas contre le prince Sokolski, mais contre les princes Sokolski. Donc, un prince tué, il en resterait d'autres. J'ajoutai que sans doute serait-il décent d'attendre, pour la provocation, que le délai d'appel fût échu, quoique les princes ne se proposassent pas de faire appel. Alors seulement le duel aurait lieu, et la démarche d'aujourd'hui n'avait pour but que de m'assurer un témoin, afin que je ne fusse pas pris au dépourvu quand serait arrivé le moment d'agir. Et voilà pourquoi je suis venu te trouver. « Tu n'auras qu'à venir, alors. Pourquoi diable avoir fait ces diverses aujourd'hui ?» Il se leva et mit sa toque. « Ainsi, en principe, tu consens à être mon témoin, c'est entendu. »«
Mais pas le moins du monde.
Pourquoi ?»«
Parce que, si j'y consentais, de maintenant au jour décisif, tu viendrais quotidiennement chez moi. Mais surtout parce que tout cela n'est que sottise. »
« Veux-tu que pour toi je brise ma carrière ?» Le prince me demandera. « Qui vous a envoyé ?»
Dolgorouki.
« Et qu'y a-t-il de commun entre Dolgorouki et Versilov ?»
Alors, je serai forcé d'expliquer ta généalogie, n'est-ce pas ?
Mais il me rira au nez.
Gifle-le.
Absurde, absurde.
Tu as peur. Tu es pourtant taillé solidement. Tu étais le plus fort de nous tous au lycée.
J'ai peur, certainement j'ai peur. Et d'abord, le prince ne se battra pas, parce qu'on ne se bat qu'avec un égal.
Je suis gentilhomme aussi, par mon éducation. Et si l'un des deux est inférieur à l'autre, c'est lui.
Eh non, eh non, tu es un petit.
Comment, petit ?
Oui, petit, nous sommes tous les deux petits, et lui est grand.
Brute ! Mais il y a déjà un an que je peux me marier.
Marie-toi tant que tu voudras. N'empêche que tu n'es qu'un petit bonhomme qui a encore à grandir.
L'animal se moquait de moi. Énervé, je le poussai de la main droite, ou pour mieux dire, du poing droit. Il me prit par les épaules, me fit pivoter, et quand je fus face à la porte, me prouva qu'en effet, il avait du muscle.
2. Si l'on pense que j'étais d'une humeur terrible en quittant Éphime, qu'on se désabuse. Je comprenais parfaitement qu'il n'y avait là qu'un épisode futile et que l'essentiel de l'affaire restait intact. Tout en marchant, je ne m'étais arrêté qu'un instant dans l'île Basile qui se trouvait sur mon chemin pour prendre une tasse de café. Je rendais justice à ce R. Superficiellement, il avait raison. Mais, au fond du débat, quelque chose de juste échappait aux basses argumentations du bon sens, se maintenait irréductible. Et je plaignais Éphime. Un réalisme limité par le bout du nez est plus décevant que n'importe quelle aventureuse fantaisie, parce qu'il est aveugle. J'arrivai chez Vassine à midi. Il était absent, je résolus de l'attendre. Cette lettre que je détenais et qui concernait l'héritage soulevait un cas de conscience. Recourir, en l'espèce, à Vassine, c'était lui prouver la bonne opinion que j'avais de ses lumières. Flatté, il trouverait ma démarche toute naturelle. Mais était-elle donc si naturelle? Qu'avais-je à m'ériger en juge, à faire des enquêtes, à instituer des expertises? Remettre tout simplement le spécieux papier à Versilov, qui le détruirait, soit. Cela seul était correct. Correct et habile, car du coup, je m'installais nettement au-dessus de lui, spectateur cruellement lucide de son acte. Personnellement, j'étais bien désintéressé dans la question, puisque je renonçais à toute relation familiale, et par conséquent, au bénéfice de l'opulence paternelle. En outre, je n'aurais même pas à me reprocher d'avoir, par mon abstention, ruiné les princes, attendu que judiciairement, le texte de la lettre n'était point du tout péremptoire. Mais, à ratiociner de la sorte dans cette chambre vacante, je compris tout à coup que si j'étais venu soumettre à Vassine le cas litigieux, c'était expressément, hélas, pour parader devant lui en noble posture et effacer de son souvenir ma déconfiture de la veille. J'en éprouvais un grand dégoût de moi-même. Néanmoins, je restais là. Je restais là, sachant bien que de minute en minute s'accentuerait ma rancœur. La chambre de Vassine me déplaisait. « Montre-moi ton gîte et je te dirai qui tu es. » Cette chambre dépendait d'un ménage évidemment pauvre et qui avait d'autres locataires encore. Je les connais bien, ces chambrettes étroites, meublées à peine, mais avec une prétention au confort. Un canapé moelleux acheté chez le brocanteur et qu'il est dangereux de tarabuster. Un lavabo, un lit de fer embusqué derrière un paravent. Vassine était le meilleur et le plus exact locataire. Il y a toujours dans ces maisons un tel locataire. On fait sa chambre plus minutieusement. Il a droit à une lithographie au-dessus du canapé. Un mince tapis rampe sous la table. J'étais persuadée que le titre de « meilleur locataire » flattait éminemment Vassine. La vue de deux tables chargées de livres m'irrita. Les livres, les papiers, l'encrier s'architecturaient selon l'esthétique de la logeuse et de sa chambrière. Des brochures, il y en avait en nombre. Ce n'étaient pas seulement des revues, mais de vrais livres, et il était évident que Vassine les consultait et qu'il lisait et écrivait avec solennité. Certes, Vassine est très courtois avec le visiteur, mais chacun de ses mouvements a charge de lui signifier « Je consens à t'écouter, mais j'ai hâte de te voir partir pour me mettre au travail. » Néanmoins, et quoique je susse définitivement n'avoir plus besoin des lumières de Vassine, je m'éternisais sur une des chaises adossée à la fenêtre. Autre cause d'irritation. Le temps passait, et il fallait qu'avant la nuit j'eusse retenu un logis. Un moment, je songeais à ouvrir un livre. Mais non, je ne devais pas me distraire de mes idées. Le silence durait depuis plus d'une heure, quand me parvint à travers la cloison un chuchotis à deux voix féminines dont le rythme allait s'accélérant. Par désœuvrement, j'écoutais. Je ne discernais pas les paroles. L'une des voix paraissait supplier. L'autre répliquait impatiemment. Mon attention se lassa bientôt et je n'écoutais déjà plus quand soudain il y eut un remue-ménage dans la pièce voisine. Quelqu'un avait dû brusquement quitter sa place et frapper du pied. Puis je perçus un gémissement et enfin un cri prolongé. Mieux, un hurlement. Je me précipitai vers la porte, brusquement l'ouvris. En même temps, s'ouvrit une autre porte, au bout du couloir, celle de la logeuse, et deux têtes curieuses se tendirent. Le cri s'interrompit. Une porte voisine du seuil où je me tenais s'ouvrit, et une femme, jeune, me sembla-t-il, se dégageant vivement, s'engouffra dans l'escalier. Une autre, âgée, voulut la retenir, qui, impuissante, gémit. « Oh, Lia, oh, Lia, où vas-tu? Oh !» Mais, voyant ouvertes nos deux portes, elle tira vivement la sienne, et par l'entrebâillement, écouta les pas en fuite dans l'escalier décroître. Je repris ma place auprès de la fenêtre. Le calme se rétablit, et déjà je ne pensais plus à cet incident futile. Mais, au bout d'un quart d'heure, une voix masculine fit résonner le couloir et quelqu'un empoigna le bouton de la porte de Vassine. Puis ce quelqu'un entr'ouvrit la porte, assez pour que je puisse voir dans le corridor un gaillard de haute taille, qui m'aperçut aussi et qui me dévisageait déjà, tout en continuant à s'entretenir avec la maîtresse du logis. Celle-ci lui donnait la réplique à voix aiguë et hilare. Évidemment, le visiteur était déjà dès longtemps connu d'elle, et avantageusement. Il criait et faisait de l'esprit. La conversation roulait sur ce thème, que Vassine n'était jamais à la maison, que le monsieur n'avait vraiment pas de chance dans ses tentatives de visite, qu'il se résignait, comme la fois précédente, à attendre l'absent. Toute proposition qui déchaînait l'enthousiasme de la logeuse. Enfin, il ouvrit large la porte et entra. C'était un monsieur bien mis, un monsieur habillé, comme l'on dit, en seigneur, et pourtant il n'avait point du tout l'air d'un seigneur, malgré son vœu manifeste de paraître tel. Il était vulgaire, et même quelque peu goujat. Ses cheveux châtains, légèrement grisonnants, ses sourcils noirs, son ample barbe et ses gros yeux ne parvenaient pas à composer une physionomie. Il ressemblait à tout le monde. Un homme pareil est toujours prêt à s'éjouir, mais l'on ne s'amuse guère avec lui. Le caprice de son caractère sautille à l'aveuglette, de la belle humeur à la gravité et à la polissonnerie. Du reste, inutile de décrire d'avance. Ce monsieur, je le connais bien maintenant, et naturellement, je le représente tel que je le connais. Mais aujourd'hui encore, il me serait difficile de dire à son sujet quelque chose de net.
Tout chez cette sorte de gens est indéfinissable. À peine avait-il eu le temps de s'asseoir, l'idée me vint que ce pouvait être là le beau-père de Vassine, un certain Stiebielkov, dont j'avais entendu parler. Ce qu'on disait de lui, je n'y avais pas prêté oreille bien attentive, mais pas grand-chose de bon. Je savais que Vassine, orphelin, était resté longtemps sous son égide, puis s'était libéré, leurs aspirations concordant mal. Je me souvins aussi que ce Stiebielkov possédait quelque fortune, spéculait. Il me toisa sans me saluer, posa son haut de forme sur la table, sise devant le canapé, écarta énergiquement la table et s'affala sur le canapé avec une telle force que le misérable meuble craqua. Il haussa la pointe de son pied droit et se mit à admirer le vernis de sa bottine. Puis il se retourna vers moi, m'inspectant de ses grands yeux inexpressifs. « Je ne le trouve jamais !» dit-il avec un triste hochement. Je ne répondis rien. « Il n'est pas exact. Il a ses opinions sur l'affaire. Vous venez de la rive gauche ?»«
C'est dire sans doute que vous êtes venu, vous, de la rive gauche, » émis-je.
« Non, c'est moi qui vous questionne. »
Je viens de la rive gauche, mais comment le savez-vous ?
Comment ? Il scia, mais ne daigna pas répondre.
Je veux dire que je n'habite pas la rive gauche, mais je m'y trouvais et j'en arrive.
Un sourire inepte, où ses yeux clignotaient, lui engluait le mufle.
De chez Monsieur Diergatchov, prononça-t-il enfin.
Comment ? « De chez Diergatchov, m'ébahis-je. » Il me regarda d'un air hostile.
« Mais je ne le connais pas, » continuai-je.
« Comme vous voudrez. »«
Oui, non, permettez. Vous achetez n'importe quoi dans une boutique. Dans une boutique voisine, un autre client achète quelque autre chose. Voyons, quelle chose ? Dites, ne vous gênez pas. De l'argent, chez un marchand, car l'argent est une marchandise aussi, et l'usurier est aussi un marchand. Vous suivez ?
Je suis un peu. Un troisième acheteur passe, et montrant l'une des boutiques, il dit « c'est bien », et désignant l'autre, il dit « cela n'est pas bien ». Qu'est-ce que je pense de cet acheteur ?
Comment voulez-vous que je le sache ?
Non, voyons, il faut toujours prendre des exemples. Je me promène perspective Nevski. Et je remarque que sur l'autre trottoir marche un homme dont je voudrais connaître le caractère. Nous arrivons ainsi jusqu'à l'angle de la Morskaya, et là où se trouve un magasin anglais, nous remarquons un troisième passant qu'un cheval vient d'écraser. Maintenant, saisissez. Un quatrième monsieur passe, et il veut comprendre dans quelle mesure nous sommes pratiques et positifs tous les trois. Vous suivez ?
« Excusez-moi, mais à grand-peine. »«
C'est cela, je m'en doutais. Je changerai donc de sujet. J'ai été plusieurs fois dans les villes d'eau d'Allemagne. »«
Quelle ville au juste ? Cela n'a pas d'importance. Je vague et je vois des Anglais.
Vous savez qu'il est difficile de lier connaissance avec un Anglais.
Mais au bout de 2 mois, la cure terminée, nous nous trouvons dans les montagnes et l'alpenstock en main, nous faisons l'ascension de l'une d'elles.
Laquelle, direz-vous ?
Laquelle ? Ah, qu'importe laquelle !
Au tournant, c'est-à-dire à l'étape, et justement à l'endroit où les moines distillent la chartreuse, remarquez cela. Je rencontre un indigène qui se tient tout seul et silencieux. J'ai envie de savoir combien il est sérieux. Dites-moi si je puis m'adresser, pour avoir leur opinion, à la foule des Anglais avec lesquels je marche, n'ayant pu, aux os, lier conversation avec eux.
Je n'en sais rien. Pardon, il m'est difficile de vous suivre.
Difficile ?
Oui, vous me fatiguez.
Il clignota, et il esquissa de la main un geste qui probablement signifiait quelque chose de très solennel et de décisif. Après quoi, il tira tranquillement de sa poche un journal, le déplia, se mit à compulser la dernière page et me laissa tranquille. 5 minutes, il ne me regarda pas.
celles de Brest-Rograyev ne sont pas tombées, hein ? Elles marchent. J'en connais beaucoup qui ont fait fiasco. »
Il me regarda franchement. « Je n'entends pas encore grand-chose à la bourse. »«
Vous niez ?»«
Je nie quoi ?»«
L'argent ?»«
Je ne nie pas l'argent, mais il me semble que l'idée vient avant l'argent. »«
C'est-à-dire, voici un homme qui est, pour ainsi dire, un capitaliste. »«
Avant tout, l'idée, l'argent ensuite. » Faute d'une idée haute, la société, malgré l'argent, périclite.
Je commençais à m'échauffer. Il me regarda d'un air balourd, puis, à l'improviste, son visage se détendit en un sourire jovial et rusé. « Et Versilov, donc, hein ? Il l'a emporté tout de même. Il l'a emporté. On lui a tout à juger hier, hein ?»
Subitement, je compris qu'il savait depuis longtemps qui j'étais et qu'il devait être au fait de bien des choses. Pourquoi ai-je rougi? Pourquoi l'ai-je regardé bouche bée? Lui me contemplait avec triomphe, comme si, par quelque ingénieux artifice, il m'avait pris en flagrant délit.
« Non, » proféra-t-il en cintrant ses sourcils, « prenez auprès de moi des renseignements sur Versilov.
Hein? Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Il y a un an et demi, il aurait pu bâcler une belle affaire au moyen de cet enfant.
Oui, seulement il a raté son coup.
Au moyen de quel enfant?
D'un enfant qui est encore en nourrice et pour lequel il paie.
Mais il n'aura rien, parce que...
Quel enfant en nourrice?
Un enfant à lui, quoi, né de mademoiselle Lydie Akhmakov. La Vierge belle me caressait. Les allumettes de phosphore, hein?
Quelles absurdités!
Ah, voilà. Mais où est-ce que j'étais, moi? Je suis médecin accoucheur. Mon nom est Stiebielkov. Vous ne connaissez pas? Il est vrai que déjà alors je ne professais plus, mais dans un cas grave, je pouvais toujours donner un conseil utile.
Vous, un accoucheur? Vous avez accouché mademoiselle Akhmakov?
Non, je n'ai pas assisté aux couches. Là-bas, il y avait un docteur, Grantz, surchargé de famille. On le payait un demi-thaler. C'était un prix fait. Un pauvre diable que personne n'invitait. Il opéra en mes lieux et places. C'est moi qui l'avais indiqué. Avec lui, pas de danger que le mystère s'ébruita. Vous me suivez? Je me suis borné de donner un conseil pratique, en tête-à-tête, à André Petrovitch Versilov. Mais il a préféré cour de lièvre. « On les manque tous les deux, » dit le proverbe. Moi, je dis que les exceptions, à force de se répéter, deviennent une règle. Oui, il a voulu attraper un second lièvre, une autre femme, et sans résultat. Ce que tu possèdes, garde-le. Quand il faut brusquer les choses, il hésite. Versilov, c'est un prophète de femmes. Ainsi l'a désigné devant moi le jeune prince Sokolski. Écoutez, si vous voulez en savoir long sur Versilov, venez chez moi. Manifestement, il se complaisait au spectacle de ma stupéfaction. Je n'avais jamais entendu parler de ce prétendu enfant en nourrice. Mais voilà que la porte des voisines claqua, quelqu'un entrait précipitamment dans leur chambre.
« Versilov demeure dans la Mojaskaya, maison Litvinov, logement 13. J'ai été moi-même au bureau d'adresse. »
Criait une voix de femme, une voix indignée, dont nous entendions chaque mot. Stiebielkov suréleva ses sourcils. « Nous causions de lui. Le voilà à l'œuvre. Les exceptions qui se répètent. L'avais-je dit ?» Agenouillé sur le canapé, il avait déjà l'oreille collée à la cloison. La femme qui vociférait était celle qui s'était enfuie tout à l'heure. Pourquoi le nom de Versilov était-il mêlé à cette affaire grotesque? Et de nouveau, ce fut ce même cri que j'avais déjà entendu, le cri rageur d'une personne à qui on refuse quelque chose. Il y eut comme un bruit de lutte, des mots hachés.
« Je ne veux pas, je ne veux pas, rendez-moi ça, tout de suite !»
L'une des femmes en querelle se précipita vers la porte, l'ouvrit. Toutes deux s'engagèrent dans le couloir, l'une retenant l'autre. Siebielkov fit irruption dans le couloir, lui aussi. À sa vue, les voisines réintégrèrent prestement leur logis, dont la porte se referma à toute volée sur la curiosité de Siebielkov. Il s'arrêta, et souriant, le poing à la hauteur du front, leva un doigt méditatif. Cette fois, je remarquai dans son sourire quelque chose de méchant et de lugubre. Avisant alors la logeuse, qui se tenait aux aguets à l'autre bout du corridor, il s'avança vers elle. Conversation à voix basse, après quoi, nantis sans doute de renseignements, il regagna la chambre de Vassine avec un air cérémonieux et résolu, prit son tube, le lustra, se contempla dans la glace, s'ordonna les cheveux et, sans même me regarder, se dirigea vers la chambre de nos deux voisines. Un moment, l'oreille plaquée au panneau, il écouta, tout en œilladant vers la logeuse qui le menaçait de l'index. « Fi, le polisson !» Enfin, avec une décision mitigée par quelle délicatesse et respectueusement courbée, il frappa à leur porte. Une voix. « Qui est là ? » ?»« Me permettrez-vous d'entrer pour une affaire très grave ?» prononça Siebielkov sur un timbre imposant. Au bout d'un moment, la porte s'entrebâilla. Il en saisit solidement la poignée, prêt à forcer la place. Des débats s'engageaient. Siebielkov jacassait, tout en tâchant d'insinuer sa corpulence entre le bâton et le chambranle. Je ne me rappelle pas ses paroles même, mais il parlait de Versilov, se faisait fort de tout élucider. « Non, vous me demandez... Non, vous venez me voir... » Des choses dans ce genre. J'avais repris dans la chambre mon poste d'observation. Je ne distinguais pas du tout ce que disaient maintenant les trois interlocuteurs. Le nom de Versilov revenait avec persistance. Siebielkov, je m'en rendais compte, avait fini par s'emparer de la conversation. Il devait être vautré sur un canapé, comme tout à l'heure chez Vassine. Il pérorait. « Vous me suivez ? Veuillez comprendre. » Par deux fois son rire tonitrua, inopportun sans doute, car dans le même temps glapissaient sur un ton particulièrement lamentable les deux autres voix. La jeune femme surtout, celle qui avait au début poussé des cris si perçants, s'égosillait en plaintes et vitupérations. Siebielkov ne laissa pas leur tapage dominer le sien. Ses paroles et ses rires atteignirent un diapason de tempête. Les êtres du genre Siebielkov ne savent pas écouter. Bientôt j'eus honte d'espionner ainsi, et je repris ma première place près de la fenêtre. Je me sentais moralement brisé. Mon cœur battait dans l'attente d'un événement. 10 minutes se passèrent, et tout d'un coup, dans l'explosion d'un rire formidable, une chaise s'abattit, projetée sans doute par quelqu'un qui venait de se lever brusquement. Les deux femmes poussaient des cris. Siebielkov, dont le ton avait changé, se justifiait, suppliait qu'on l'écoutât. Mais on ne l'écoutait pas. « Sortez ! Sortez ! Sortez ! Vous êtes un sale libertin !» J'ouvris la porte au moment même où Siebielkov réapparaissait dans le corridor, expulsé par les mains forcenées des deux femmes. M'apercevant, il me désigna à leur vindicte. « Voilà le fils de Versilov. Ah, vous ne vouliez pas me croire ? Eh bien, voilà son fils, son propre fils, son fils lui-même, s'il vous plaît. » Et, me saisissant par la main avec autorité, il me traîna auprès de ces dames. « C'est son fils ! C'est son fils ! » répétait-il sans ajouter aucune explication. La jeune femme se tenait dans le couloir, la plus âgée dans le cadre de la porte. Étique, maladive et roussâtre, cette pauvre fille n'était pas mal grâce à ses 20 ans. Elle ne laissait pas de ressembler un peu à ma sœur, particularité qui se grava dans ma mémoire. Toutefois, il est sûr que Lise ne sera jamais dans cet état de fureur. Ses lèvres étaient blêmes, ses yeux gris clairs fulguraient. Elle tremblait toute d'indignation. « Et qu'est-ce que cela prouve qu'il soit son fils ? S'il est en votre compagnie, ce ne peut être qu'une canaille.
si vous êtes le fils de Versilov, m'interpella-t-elle, dites-lui de ma part qu'il est un drôle, que je n'ai pas besoin de son argent. Prenez, 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 rendez-lui cet argent. » Elle tira précipitamment quelques billets de sa poche, mais la vieille, sa mère, comme je l'ai su depuis, la retint. « Olia, peut-être est-ce faux, peut-être n'est-il pas son fils. » Olia la regarda, réfléchit, me toisa avec mépris et rentra dans la chambre. Mais avant de clore la porte d'un tour de clé, elle cria encore une fois à Siebielkov « Allez-vous-en » Siebielkov, me tenant toujours par l'épaule, le doigt levé, la bouche dilatée en un long sourire, me fixait d'un regard interrogateur. « Je trouve votre conduite avec moi ridicule et infâme, » balbutiai-je. Mais il ne m'entendait même pas, quoiqu'il continuât à me regarder. « Il faudrait examiner cela, » annonna-t-il, irrésolu. « Mais comment avez-vous osé m'appréhender? Qui est cette femme? Vous m'avez empoignée par le bras et m'avez traînée devant elle. Qu'est-ce qu'il y a ?»« Eh, diable! Une dépucelée quelconque! Une de ces exceptions si fréquentes! Vous me suivez ?» Et il appuya son doigt sur ma poitrine. « Assez !» fis-je en écartant sa main. Et subitement, il se prit à rire d'un doux rire inextinguible. Il mit son chapeau et, fronçant les sourcils, « Il faut dire à la logeuse qu'elle les congédie, et le plus vite possible, sinon elle... Vous verrez, ma parole, vous verrez. » « Au fait, » continua-t-il rasséréné, « vous attendez Krisha ?»« Non, je ne l'attendrai pas. »« N'importe. » Et sans plus, il fit demi-tour et s'engagea dans l'escalier, négligeant même de jeter un regard à la logeuse, qui, évidemment, attendait de lui des nouvelles. Je mis aussi mon chapeau, priai cette femme de dire à Vassine que moi, Dolgorouki, était venue, et partis.